Bonjour à tous. Alors déjà, merci parce qu'en fait, je suis la seule du trio à ne pas faire partie du monde des circassiens et à ne jamais avoir fait d'art du cirque. Par contre, je faisais beaucoup, beaucoup de sport quand j'étais jeune, hein, à une époque où en fait, les doubles parcours n'existaient pas. Et il y a un moment où, quand on veut passer au niveau international, c'est difficile quand même de... C'était difficilement compatible, de toute façon, avec des parcours scolaires ou universitaires. Donc j'ai lâché et donc en fait là, ce qui m'a conduit à la médecine d'abord puis à la chirurgie orthopédique, c'était le fait de choisir justement un métier qui me permette par la suite de rester en interface étroite avec les sportifs. Et l'intérêt de la chirurgie orthopédique quand on n'est pas juste un technicien justement installé dans le privé, c'est qu'en fait moi j'ai vraiment mené toute ma carrière pour me focaliser sur le sport en essayant de développer justement une activité où j'ai de l'enseignement et de la recherche, d'où le fait que je sois universitaire comme Luc. Et en fait, on peut être chirurgien et finalement traiter 80% de ces athlètes et des patients en général par des méthodes conservatrices. Donc en fait, j'en opère très très peu. Mais c'est justement tout ce qui est la modification du geste, le fait d'essayer de vous guérir autrement que par la chirurgie. Mais quand on a besoin de cet acte technique, c'est vraiment super sympa de ne pas avoir besoin de faire appel à quelqu'un d'autre et finalement de pouvoir vous suivre de A jusqu'à le retour sur le terrain. Alors c'est vrai que moi je suis donc plutôt sur la Sorbonne Paris Nord, donc ce qui me permet d'avoir un de mes deux services de médecine du sport à Bondy, donc juste à côté de l'école du jonglage, de travailler beaucoup avec Fratellini où on a mis en place justement des détections et des suivis, notamment avant le démarrage de leurs apprentis. Donc on a vraiment un programme de suivi en début d'entrée dans le cursus. Et puis sur l'Hôtel-Dieu, c'est pour ça qu'entre autres, j'ai retrouvé Luc au bout de quelques dizaines d'années. Et je travaille aussi depuis très longtemps avec l'Institut National des Sports en étant en charge d'un autre PEPR, mais qu'on appelait le sport de très haute performance, qui a été mis en place en 2019 en vue des JO 2024. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec l'INSEP sur ces aspects de prévention, parce que c'est quand même la clé. Et quand en fait on parle de prévention, il n'y a pas seulement la prévention pour ne pas se blesser du tout, mais il y a aussi la prévention pour vous permettre de reprendre sans vous reblesser. Et donc maintenant, toute cette partie de reprise de l'activité avec vraiment un phasage, où en fait le but c'est souvent d'adapter, on vous dit jamais faut rester dans votre chambre ou dans sans rien faire pendant des jours, c'est-à-dire qu'il faut des transitions, des relais d'activité justement pour pas que vous vous déconditionniez, mais bien sûr tout en vous laissant guérir de la blessure d'origine. Alors, hop, ça passait un peu vite, voilà. Donc c'est vrai que la prévention, on la conçoit souvent pour prévenir des lésions traumatiques. Typiquement, tout le monde entend parler dans l'équipe des lésions du croisé antérieur. C'est Antoine Dupont, c'est en ski. Enfin, tous ces sports avec pivot, ça c'est leur hantise parce qu'on est quasiment sur 9 à 12 mois d'arrêt du sport intensif. Dans certains sports, par exemple, ils se focalisent tous sur la prévention des lésions musculaires au niveau des ischio-jambiers. Mais en fait, la prévention, c'est plein de choses. C'est finalement beaucoup plus tout ce qui va être hyper-utilisation, donc c'est dont Luc vous a parlé. Mais c'est vrai que maintenant, pour les sportifs de haut niveau, ce que vous êtes, c'est-à-dire ceux à pratique intensive, quel que soit l'art ou l'activité sportive pratiquée, c'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus attentif à des aspects, si vous voulez, qui relèvent plus de la médecine, que ce soit, par exemple, pour prévenir ce qu'on appelle le RED, c'est des déficits d'apport, notamment dans des disciplines esthétiques. On le voit beaucoup en gym, en natation synchronisée, en triathlon, où en général, il faut des gabarits vraiment très, très fit. C'est des burn-out avec comme ça des. Enfin voilà, on pète les câbles quelques temps avant une échéance qui était vraiment son objectif principal. Les aspects nutritifs, les aspects sommeil, et tout ça, ça fait partie vraiment de la prévention. Et après, la question c'est quand, comment, par qui? Alors c'est vrai que quand finalement, on va y revenir, mais en gros, c'est tout le temps, c'est-à-dire que en fait, ça va être tout au long de votre pratique ou de votre carrière. Par qui? Ben, c'est pas une personne, finalement, ça va être une équipe. Souvent, je pense que vous avez rarement un médecin, voire même un kiné avec lequel vous êtes en interface directe. Mais finalement, la prévention, ça relève un peu d'un médecin, un peu des kinés. C'est vrai que nous, les ostéopathes, on a plus affaire à des kinés-ostéopathes. On pourra y revenir dans les questions si ça vous intéresse. Mais il y a aussi les préparateurs physiques. Et puis après, c'est le lien avec vous-même et avec l'entraîneur quand vous en avez un. Et puis après, c'est vrai qu'on a la notion de prévention individuelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui justement doivent être très personnalisées à la fois sur votre discipline, mais au sein de votre discipline, en jonglage, il y a tellement de modalités de jonglage que justement la prévention ne sera pas les mêmes selon l'engin que vous utilisez. Et puis après, quand c'est dans un groupe, il y a de la prévention vraiment collective. Alors si on prend par exemple les aspects psychologiques, bah maintenant en fait, dans des groupes qui suivent des athlètes de haut niveau, donc c'est vrai que je m'inspire plus, non pas forcément des arts du cycle, puisqu'on n'en a pas l'expérience au sens strict, hein, et que je vous parle plus de ce qu'on a mis en place, notamment à l'Institut National des Sports, hein, c'est vrai que maintenant ils sont extrêmement vigilants, si vous voulez, sur le dépistage aux tout premiers éléments des burn-out des sportifs en leur faisant passer régulièrement ce type de questionnaire pour essayer d'être vigilant au moindre signe d'alerte. Nous, les chirurgiens, on a sans doute souvent tendance à considérer que si on a l'impression que notre geste a été parfait, tout devrait bien aller. On est parfois très surpris avec des sportifs de haut niveau où la radio, l'examen clinique sont en apparence tout à fait satisfaisants et ils ne retournent pas sur le terrain, ou en tous les cas pas sur le terrain au même niveau. Et donc maintenant, on a des échelles qui évaluent ce côté juste subjectif, entre guillemets, de la reprise du sport. C'est ce que veut dire les lettres RSI. Parce que finalement, on sait très bien que pour retourner sur un terrain ou faire des sports de contact ou reprendre de la compétition à haut niveau, il faut certes que l'articulation fonctionne bien, les muscles aussi, mais il faut aussi que psychologiquement, on ait complètement oublié cette sensation, quand on l'a vécu une fois, on sait ce que c'est. Hein, donc il faut vaincre tout ça et avoir finalement retrouvé en confiance, et ça se travaille aussi, à la fois en rééducation, mais aussi avec des techniques, psychologiques. Et donc, qui a été décrit d'abord pour l'articulation du genou par des équipes anglo-saxonnes et qu'on a traduit avec des questionnaires validés en français. On l'a après développé pour l'épaule, pour la cheville, enfin voilà, pour tous maintenant, on se pose la question de cet aspect psychologique du retour au sport après des interventions. Alors, les aspects nutritionnels, c'est fondamental. Plus vous allez être jeune et en phase de croissance, plus c'est important, mais ça reste vrai tout le temps. On sait maintenant que si vous avez des déficits en vitamine D ou en calcium, vous avez des risques plus importants de fractures de fatigue. Alors je pense que les fractures de fatigue, vous en avez entendu parler, c'est vrai qu'on en parle beaucoup au niveau des membres inférieurs. Luc l'a dit, c'est un peu moins ce qui vous touche, vous, en tant que jongleur, sauf si vous avez d'autres activités. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les fractures de fatigue, à chaque sport ou discipline, ça fracture de fatigue. Il y a un petit os là juste dans l'épaule qu'on appelle la coracoïde. Et bien en fait, ceux qui font du tir à la carabine ont une fracture de fatigue de la coracoïde qu'on voit dans aucun autre sport. Donc je suis sûre qu'en jonglage, on peut avoir une fracture de fatigue peut-être au niveau d'un poignet ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, selon les sollicitations, une surcharge de contrainte sur un os peut déclencher une fracture de fatigue. Mais malgré tout, si on est vigilant sur un certain nombre de mesures de prévention, alors c'est sûr que le fait d'être de race caucasienne et de sexe féminin, ça n'en dit plus rien, pas grand-chose. Mais par contre, on peut tout à fait jouer sur les déficits en fer, en vitamine D, essayer de bien stabiliser la perturbation des cycles menstruels, c'était ce que je vous avais dit dans le RED, ça fait partie, et puis essayer de limiter ces surcharges de contraintes. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où vous êtes particulièrement sensible à toutes ces pathologies de contraintes, et en particulier les fractures de fatigue, c'est les phases de reprise. Alors ça peut être une reprise parce que vous êtes parti en vacances, même si souvent vous continuez, mais c'est un break, ça peut être un break pour une autre blessure, et c'est vrai que la reprise de l'entraînement doit vraiment se faire de façon progressive et si possible quantifiée, parce que c'est ces moments-là où on est le plus fragile sur d'autres aspects. Alors, c'est pareil, le sommeil, on entend beaucoup parler en ce moment là sur les médias des problèmes de sommeil chez les gamins avec leur tablette. Mais c'est vrai qu'en fait, cette qualité du sommeil, ça n'intervient pas simplement parce qu'on se dit on est plus en forme quand on dort bien. C'est-à-dire que ça va bien au-delà, avec des répercussions sur tout ce qui est beaucoup d'aspects hormonaux, cognitifs, etc., qui après, en eux-mêmes, induisent d'autres pathologies. Ce n'est pas simplement qu'on est moins en forme, c'est qu'il y a un certain nombre de pathologies, de type les fractures de fatigue, qui peuvent être grandement favorisées par des défauts de sommeil, en quantité ou dans les rythmes, si vous voulez, au fil de la journée. Et donc ça, c'est pareil maintenant chez les athlètes. Ils ont tous ceux-là qui ont préparé Paris, par exemple en natation, ils ont eu des questionnaires sur le sommeil extrêmement précis. Ils ont mis un focus très particulier sur la qualité des matelas dans le village olympique, parce que le sommeil, c'est quand même la clé de beaucoup de choses. Donc, quand c'est tout le temps. Donc, en gros, il faut le savoir. Mais c'est vrai que ce sera d'autant plus important si vous préparez. Alors, vous, ça peut être un spectacle, une embauche, mais disons qu'il y a des événements plus marqués. Il faut être encore plus vigilant chez les plus jeunes. Et puis, dès que vous, pour une raison X, vous allez avoir besoin d'augmenter, parce que vous avez quelque chose de plus difficile ou vous avez un enjeu plus important, cette phase-là, finalement, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, il faut savoir parfois doser, en faire un peu moins ou, en tous les cas, le faire différemment. Par qui ? Bah, ça va dépendre de votre organisation, de votre entourage, mais ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas le médecin tout seul, ce n'est pas encore moins l'ostéopathe tout seul. Et souvent, alors dans les structures fédérales ou nationales, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment un triptyque entre le médecin, le kiné, le préparateur physique, qui a une place qui n'est pas toujours d'ailleurs facile en interface avec le kiné. Donc ça demande beaucoup de diplomatie pour tuiler ces interfaces. Et puis bien sûr, l'entraîneur et l'athlète lui-même. Et alors, comment c'est, alors, je ne sais plus qui tout l'heure, c'est toi qui parlais de serial killer. En fait, le profiling, ça fait un peu serial killer, mais c'est ça. C'est-à-dire que, en français, c'est vraiment vous caractériser individuellement pour connaître en fait vos forces et vos faiblesses en fonction de votre morphologie ou autre. Si par exemple, vous êtes hyper laxe des épaules, bah, vous n'aurez pas les mêmes risques de pathologie au niveau de l'épaule que quelqu'un qui, comme moi, est très raide au niveau des épaules. Vous voyez, si vous faites ça, je suis sûre que vous en avez plusieurs d'entre vous qui allaient à 90 degrés. Donc, tout ça, c'est ce que nous, médecins et les kinés, on doit savoir dépister pour vous l'expliquer et que ça fasse partie de votre routine après. Et puis ensuite, bien sûr, on prévient les lésions les plus fréquentes, d'où l'intérêt de l'étude de Luc et Kim, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'on va se focaliser sur l'épaule, sur le poignet du jongleur, mais aussi finalement sur le rachis. Et ça, le rachis, vous allez voir, il y a, enfin, pour vous, mais pour plein de sports, ben voilà, c'est forcément dans le gainage préventif que vous prévenez les blessures. Et je vous rassure, on a tous beaucoup plus d'arthrose que ceux qui n'ont jamais rien fait, mais par contre on le tolère mille fois mieux. C'est-à-dire qu'on a parfois chez des gens de plus de 50 ans des radios qui, quand on les regarde, on se dit oulala. Et puis en fait, vous voyez rentrer des gens faire encore beaucoup de, même de sport, c'est pas que de l'activité physique, parce qu'en fait le fait d'avoir toujours été sportif fait aussi que on est mobile, on garde cet entretien et surtout on garde notre potentiel musculaire. Alors c'est plus le même malheureusement, mais malgré tout beaucoup plus que la population commune. Donc ce profiling individuel, bah, c'est vrai qu'on essaye en fait de bien caractériser ce qui va être des facteurs qu'on appelle intrinsèques, donc qui sont liés à vous. Donc dans vos facteurs intrinsèques, il y en a certains qu'on ne peut pas modifier, on ne modifiera pas votre âge, et par contre il y en a d'autres qu'on peut modifier, notamment par le biais de la prévention d'une forme de rééducation ou de préparation spécifique. Et puis il y a des facteurs totalement extrinsèques qui vont être par exemple pour un coureur, les chaussures, le type de terrain sur lequel il court. Et donc vous, ça peut être ne serait-ce que l'utilisation des engins que vous utilisez. Et ça, on obtient finalement des profils de risque un peu cumulatifs qui nous permettent déjà de dire bah, celui-là, il a plus de chances que celui-là d'avoir des pathologies de contraintes ou de surcharge. Le constat, en fait, donc là, je vais vous retracer trois expériences complémentaires. Hein, l'un d'un kiné de l'INSEP, l'autre d'une jeune femme qui est kiné, ostéopathe et préparateur physique pour le basket, et de quelqu'un qui s'occupe du département perf de l'INSEP. Donc, les kinés, en fait, avaient constaté que tous leurs sportifs de haut niveau de l'INSEP ont tous, de façon obligatoire, ce qu'on appelle un SMR, un suivi médical réglementaire, en début de saison. Mais finalement, eux, kinés, quand ils ont à les prendre en charge avec une blessure en cours d'année, bah, finalement, le SMR, ça ne leur donne pas grand-chose. Et il leur manquait vraiment des données, parce que finalement, il y a un état, un moment T, mais c'est vrai que l'état de grâce, entre guillemets, quand vous allez bien et que vous n'avez mal nulle part, c'est finalement ce qui doit servir de référence. Donc déjà, ils se posaient la question d'améliorer tout ça. Et donc leur idée, c'était d'avoir un screening en fait en début de saison personnalisé avec une batterie de tests qui était vraiment homologuée, standardisée, c'est-à-dire qu'à Toulouse, à Paris ou n'importe où, on fait exactement les mêmes tests. Et donc si l'athlète change d'endroit, on sait à quoi se reposer. Et puis ça pour chaque région anatomique, parce que comme vous le voyez, en fonction des sports, ce n'est pas les mêmes articulations qui sont sous contrainte. Et puis, il faut utiliser des ratios qui soient comparatifs, parce que selon votre taille, votre poids, etc., ben, un test isocinétique, ce n'est pas le même chez moi, chez Luc, chez vous. Donc, voilà. Ce qui permet, en fait, après, chaque équipe, et quand on dit l'équipe, ben, c'est notamment l'entraîneur, etc., ben, tous ceux qui vont s'en occuper, et la base de données spécifique de leur collectif, et des individus, et puis une photographie de chaque athlète quand il arrive, avec, vous allez voir, des petits dessins où on voit tout de suite les points de vigilance, et ces points de vigilance, ça doit se traduire dans l'entraînement et dans la prévention, préparation physique. Donc en fait, le Covid, pour ça, leur a été bénéfique parce qu'ils ont mis cette période où l'INSEP s'était vidé à profit avec une de ses collègues pour mettre en place cette batterie de tests et en ciblant Paris 2024. Et donc il y avait des groupes spécifiques qui avaient été ciblés, vous les voyez. Chez vous, bah, finalement, il y a la gym qui, ou le breakdance qui pourrait s'apparenter à vos problématiques un peu plus. Il faut bien voir que cette batterie de tests, ça représente 90 minutes par athlète, ce qui est quand même lourd. Et qu'un des points faibles, c'est justement c'est qu'il n'y a pas de kiné en plus ou de personne en plus pour faire ces batteries de tests. Donc ça s'intègre dans le quotidien. Et puis après, c'est toujours pareil, quand on veut utiliser des ratios et pouvoir comparer, il faut un certain nombre de personnes pour qu'après on puisse être plus discriminant. Et vous allez voir, donc ils ont commencé ces batteries de tests, et on va voir quelques comparatifs entre la saison 21-22 et la saison 22-23. Alors c'est divisé, je vais aller vite, mais si vous voulez, en 6 chapitres. Le premier chapitre qui évalue globalement la douleur, le deuxième qui est taille, poids, composition corporelle. Une histoire des blessures, ça, voilà, on n'y coupe pas, hein, ça, c'est important. La seule chose, c'est que là, ils avaient décidé de ne prendre en compte que celles survenues dans les 2 ans précédents, et pas les autres. Et puis après, un examen articulaire avec les amplitudes et des tests spécifiques qui sont faits soit par les médecins, soit par les kinés. Voilà, ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu mieux, c'est l'exemple de l'épaule. Mais bon, pour chaque articulation, ils ont leur batterie de tests d'examen clinique. Ils ont des examens, une évaluation musculaire extrêmement détaillée. Ça va, vous voyez, d'une capacité musculaire à la répétitivité, l'endurance, enfin, tout ça pour bien qualifier les muscles. Et puis après, ils ont des tests spécifiques, je vais vous en montrer quelques-uns, pour les membres sup, les membres inf, le rachis. Ce qu'on appelle le core stability, c'est en fait, je ne sais même pas comment le traduire en français, mais en gros, c'est toute la statique proprioceptive qui va finalement de la tête aux pieds, mais qui va surtout concerner justement rachis cervical et lombaire, et pour vous, qui est quand même une des clés, à mon avis, à la fois de votre tenue et aussi de la prévention de vos douleurs cervicales ou lombaires. Alors, un petit exemple, là c'était un exemple sur la cheville, donc vous avez finalement, vous voyez, un certain nombre d'items, ça donne des points, on compare le côté droit, le côté gauche, vous voyez que cet athlète, en fait, il avait eu une lésion musculaire sur le mollet droit, et puis qu'après il avait aussi une tendinite d'Achille du même côté, et bon, on arrive finalement à un déficit de 30% sur cette région droite, hein, alors que de l'autre côté, à gauche, bah, ça va plutôt pas mal. Et il avait juste eu, si vous voulez, sur des tests, vous voyez, à un pied, etc., quelque chose qui n'était pas parfait par rapport aux normes. Donc, on savait que, par exemple, pour son entraîneur, qu'il fallait qu'il soit vigilant sur la cheville droite et que ça nécessitait notamment des exercices spécifiques pour éviter qu'il se refasse une entorse ou que ne se redéclenche une tendinopathie par la suite. Et ils aboutissent, vous voyez, à ce type de schéma, avec toute leur batterie de tests, où vous avez ce petit bonhomme, en jaune ou en rouge, sont les zones d'alerte, c'est-à-dire que dans les tests sur ces régions-là, bah, ils n'étaient pas dans les normes attendues pour leur gabarit et pour le sport ou la discipline qu'ils pratiquent. Donc du coup, ces résultats avec des axes de travail sont transmis aux athlètes, aux entraîneurs, et ça permet après d'avoir une approche un peu globale, multidisciplinaire, pour prévenir ça. Hop. Quelques exemples justement de comparaisons. Donc ça, c'était des comparaisons sur justement la stabilité et le contrôle moteur. En fait, les pourcentages exprimés, c'est quand en gros ça va pas. Donc le 100%, c'est pas 100% de résultats parfaits. Au contraire, c'était que 100% de l'équipe et du collectif n'était pas dans les normes correctes. Je crois que c'était sur de l'aviron. Mais vous voyez qu'en fait, après, d'une année à l'autre, ben en fait, il y a des choses qui se sont améliorées et d'autres, au contraire, qui peut-être parce qu'elles avaient été moins travaillées, se sont un petit peu décompensées. Et là, c'est le même type de présentation, mais cette fois-ci sur la force musculaire, sur l'ensemble, entre guillemets, des segments musculaires du membre inférieur. Et vous voyez que, par exemple, un des gros points, alors je ne sais pas si vous en rendez compte, mais souvent, une grande source d'accident, vous allez voir quelques images après, c'est quand en fait les gens manquent de stabilisation au niveau des stabilisateurs proximaux et où en fait, dès qu'ils plient le genou et encore plus si vous sautez, que vous vous réceptionnez, vous avez le genou qui part en dedans. Alors ça, c'est terrible, c'est la cause numéro 1 d'entorse. Hein. Et donc du coup, c'est sûr que les antivalvisants, vous voyez, il y avait 100% des jeunes qui devaient le travailler et malgré tout, l'année suivante, ça allait mieux. Donc ça, c'est des restitutions visuelles qui, pour un entraîneur, il voit bien dans son collectif s'il a progressé, parce que c'est des mesures que vous mettez en œuvre voilà, pour que ça mène. Alors, ça ne matche pas du jour au lendemain. Et là, vous voyez, par exemple, c'était le même athlète hein, qu'on a suivi sur 2 saisons. Et vous voyez qu'au début, il y avait quand même du boulot, notamment sur tout ce qui était partie dorsale et l'épaule gauche, et que ça s'était quand même grandement amélioré sur la saison d'après, parce qu'il y avait eu un focus, et que là, c'est quand même... Vous voyez bien, en fait, ce qui ne va pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est très parlant pour un entraîneur, le kiné qui suit l'équipe, etc. Donc, dans le futur, leur idée, c'est d'avoir le plus possible d'athlètes profilés de cette façon-là, sur 3 ou 4 ans, pour permettre aussi d'avoir ces ABAC et ces tables de concordance, et puis permettre après d'avoir à la fois le plus de spécificité par sport...
5, 6, 10 minutes. Dis donc,
on me bride, là, moi. Je passe la 2, alors. Deuxième expérience, c'est sur le basket. Et c'est pareil, c'est-à-dire que chez les jeunes basketteurs, on a une vraie problématique, notamment en phase de croissance, et leur idée, c'était d'essayer d'améliorer ça. Et donc, en fait, sa cible a été les équipes de France juniors, les jeunes athlètes encore plus jeunes du centre d'entraînement, et puis chez les féminines, équipe de France féminine et une équipe pro. En fait, elle a fait un score spécifique sur 21 points qui testent mobilité, souplesse, des sauts dynamiques, la condition physique et le pic de croissance. Donc, je vais vite. Pour le profiling, chacun fait ces tests-là, et en fait, c'est blanc-noir, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, souplesse des chaînes arrière, vous touchez les mains au sol, vous touchez pas, voilà. Et donc, il y a tout ça, donc ces tests, les sauts unipodo, les tests de condition physique, le pic de croissance, et on aboutit, en fait, après, à trois groupes, hein, ceux qui sont verts, parfait, ceux qui sont orange, attention, et ceux qui sont rouges, grandement attention. Mais ça veut dire que derrière, à partir de ces trois groupes d'entraînement, il y a vraiment une planification de l'entraînement qui est complètement différente. Quand vous êtes dans le vert, en gros, vous vous entraînez normalement, avec malgré tout, si on veut que ça aille bien, de la prépa physique et puis un tout petit peu de choses spécifiques. Donc ça, c'est 100%. Malgré tout, ils ont maintenant des cycles avec des semaines aussi de repos. Vous voyez, c'est des cycles en fait qui font environ 4 semaines, mais avec une semaine ensuite différente pour quand même recharger les batteries. Et puis, en gros, 70% d'entraînement de basket et 30% d'entraînement complémentaire. Par contre, si vous êtes en orange, vous ne faites plus que 75% d'entraînement similaire au précédent et vous avez, vous voyez, 25% qui est dédié à d'autres activités ou à du travail de prévention. Et quand vous êtes rouge, c'est encore pire, c'est-à-dire que là, rouge, vous risquez vraiment de vous blesser longuement. Et donc, dans ces cas-là, ils adaptent, vous voyez, c'est 50% d'autres choses, et vraiment avec un gros travail encadré par le préparateur physique pour essayer de pallier aux déficiences qui avaient été annoncées. Et si vous regardez, par exemple, je ne sais pas comment je déclenche, là. Non, je ne sais pas. Il ne veut pas se déclencher. Là. Ah oui. Ah si, voilà. Sauf que je trouve pas ma souris.
On la voit sur le...
Moi, je la vois pas.
Si tu retournes, tu vas la voir.
Ouais, mais... t'es gentil, mais quand c'est ici qu'il faut...
La souplesse rachidienne cervicale.
Ouais, mais moi, je suis vieille, tu sais. Et le sport, pour ça, n'a pas arrangé. Bon, enfin bref. Si, Kim, tu y arrives...
En fait, c'est en bas, mais on le voit pas sur l'écran.
Ouais, non, on voit pas. Bon. Disons que la première jeune fille avant, on voyait vraiment que c'est incroyable parce qu'elle est quand même en pôle France de basket et elle est incapable de tenir sur un pied et encore moins de descendre avec le genou dans l'axe.
Moi, j'ai le garçon qui bouge.
Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Alors, vous voyez que là, ils sont supposés descendre à 90 degrés en squat unipodal. Hein. Il ne le fait pas du tout. Et si tu arrives, Kim, à te mettre sur celle d'avant. Ah non, t'es sur le même. Bon, tant pis. Donc du coup, parce que c'était caricatural. Hein. Ah oui, je la vois, la souris là-bas. Mais...
Non, elle va bouger normalement.
Ah, ça y est, ça y est.
Ah oui, incroyable. Et elle est en équipe de France.
Ouais. Enfin, de jeunes.
Ouais, c'est dû à quoi, là, enfin, je veux dire.
Ah mais c'est juste parce que souvent, malgré tout, ils sont dépistés sur leur taille. Faut pas qu'ils soient trop gauches, mais en gros, ils sont quand même tous ces jeunes sur leur un potentiel de hauteur. Et surtout, là, elle a peut-être une quinzaine d'années, aucun travail amont. Donc, c'est une gamine qui n'a jamais fait de renforcement, des stabilisateurs, ni rien du tout, quoi. Donc, il y a un gros travail parce qu'elle, vous la mettez sans précaution. Elle a l'entorse du genou. Enfin, elle peut avoir plein de choses, mais entre autres, hein, ça, au premier, à la première mauvaise réception sous un panier, ça part. Oui, bon, donc tout ça pour dire qu'on arrive vraiment à standardiser le... Voilà. Donc, elle, à partir de ça, elle fait son profiling. Après, c'est vrai qu'il y a, vous voyez, sur son effectif, elle en avait 12 qui étaient verts, mais quand même 9 finalement qui étaient dans les deux autres groupes, à bien adapter. Et puis, bah, c'est pareil, ils ont finalement des préventions de routine. Et ça, c'est finalement ce que vous pourriez mettre en place avec une partie gainage, on peut en faire pour ici. Enfin, en fonction finalement du type de jonglage et aussi de vos points de faiblesse, c'est une petite routine qu'il faut mettre en place, alors qui est faite soit tout seul, soit dans le cadre du collectif. Et c'est en gros, vous voyez, 3 ou 4 exercices qui associent renforcement souplesse, qu'on fait 2 à 4 fois par semaine. Bon, c'est jamais qu'une dizaine de minutes, donc en soi, c'est juste le casse-pied de s'y astreindre, mais ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et après, on peut le faire avant ou après l'entraînement, mais c'est, le tout, c'est de le faire. Donc après, juste cet aspect côté, justement, perf et préparation physique, ce qui est différent, ils sont plus sur la phase, en fait, c'est vrai, un peu du profiling, mais aussi de ce qu'on appelle la réathlétisation et la reprise de l'activité après blessure. Alors c'est pareil, ils travaillent plusieurs fois par semaine avec certains élites, ça dépend. Ils ont des tests à la fois très quantitatifs sur justement de la mesure, du détail, d'un saut, d'une réception, etc. Et puis beaucoup sur tout ce qui est état de forme déclaratif, à la fois de forme physique, de sensation de fatigue, mais aussi ce qu'ils appellent le bien-être cognitif, hein, c'est les well-being questionnaires, là, etc. Et c'est vrai que ça, vous avez une note de 0 à 10. Et du coup... pour un athlète, vous avez comme ça au fil des semaines, des jours, des niveaux de performance. Et surtout, on va passer sur les plus intéressants, un entraîneur va avoir en fait, soit pour un individu, soit pour son collectif, puisque là vous avez le nom des trucs, vous voyez des espèces de panneaux comme ça. Là c'était le cognitif, là c'était le niveau de forme physique, et puis tout de suite il voit, si vous voulez, des voyants rouges qui s'allument, parce que l'un est vraiment, alors vous voyez, on n'est pas de toute façon toujours au top, et donc ça permet vraiment d'adapter les charges d'entraînement, voilà. Mes deux dernières diapos, en gros après c'est pareil, vous vous blessez, il y a vraiment un continuum, alors on espère que vous ne vous blessiez pas, mais quand ça survient, et donc la blessure, ça peut être micro-traumatique parce que vous vous mettez brutalement à avoir une névralgie cervico-brachiale ou une tendinite, ou bien parce que vous avez fait un faux mouvement, il y a vraiment ce continuum où c'est une succession finalement d'acteurs qui ont, si c'est une blessure grave, on va dire, c'est plutôt le médecin au début, puis le kiné, puis le préparateur physique. S'il n'y a finalement pas de problème de diagnostic ni rien, ça va être le kiné et éventuellement le préparateur physique qui vont se mettre en place tout de suite. Parce qu'en fait, le but, c'est un, de jamais vous arrêter complètement, de vous déconditionner le moins possible, à la fois sur le plan cardio, mais aussi sur le plan musculaire et général, et puis d'aboutir comme ça sur des choses qui sont à peu près validées. Parce que c'est vrai que malgré tout, on part de loin et qu'en tant que médecin, c'est pas blanc-noir, c'est-à-dire que tout le monde va pas reprendre à 6 mois et un jour, ou à, ben voilà, il y a plein de raisons qui font qu'il y a une forme de frontière, et que c'est quand même aussi très individualisé. Donc voilà, et donc j'arrive à la conclusion. Que finalement, je pense que vous avez un sport une pratique qui s'apparente au sport de haut niveau, de toute façon, dans les contraintes et les choses, et que finalement, la prévention, c'est vraiment une collaboration qui est le fruit de tout le monde. C'est-à-dire que c'est de vous-même si vous êtes beaucoup tout seul, mais c'est aussi de ce qu'on vous impose, ou d'un chef d'équipe, ou si vous êtes dans une troupe, ou en tous les cas, ça c'est sûr. Et il y a toujours, en fait, ce volet prévention-performance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi qu'on fait dans la recherche, parce que nous, on a aussi un PEPR sur le sport de très haute performance. Ben, en fait, c'est pas le tout d'être le plus performant possible. Si en fait, vous aboutissez à une blessure 15 jours avant votre événement majeur, de toute façon, on a tout raté, même si vous aviez tout pour être médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que c'est toujours cette espèce d'équilibre à trouver pour essayer de ne pas brider vos capacités, tout en vous donnant le loisir de vous exprimer. Et c'est vrai qu'on est obligé de s'entraîner beaucoup si on veut être performant, ça c'est toujours vrai. Voilà, ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut quelques minutes tous les jours, c'est mieux que un grand coup de temps en temps. Et puis que c'est surtout très personnalisé. Et puis le jonglage, j'ai découvert qu'il y avait des centaines de façons de jongler. Et donc finalement, entre le jonglage, le fait que vous y associez telle ou telle part artistique, esthétique, il n'y a pas une réponse pour, voilà, collective, il y a des réponses individuelles. Et parce qu'en fait, de l'un à l'autre, vous n'aurez pas de toute façon les mêmes risques ou les mêmes, par exemple, sur une épaule, il y en a certains qui n'auront peut-être jamais mal à l'épaule et d'autres, je peux leur dire quasiment tout de suite que ça leur arrivera un jour. Donc voilà. Ben voilà, j'ai accéléré pour tenir.